Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Passage à Niveau, en votre compagnie jusqu'à 14h ce dimanche 25 mai, concert d'hommage à Cesaria Évora. Ça va avoir lieu le 4 juin à la Marbrerie à Montreuil. Et ceci grâce à Cesaria Évora Orchestra, Éric Almeida, Suzanne, Lucibel et Théophile Schenter. Théophile Schenter, bonjour et merci d'être là avec nous dans les studios.
C'est toujours un plaisir d'être ici.
Ouais, bah, et tu viens un petit peu en voisin. Donc, parallèlement, il ne faut pas oublier, il y a une expo. Cesaria Évora, portrait d'une icône des berges de Seine, Rampe Châtelet, à deux pas de théâtre de la ville. Plus tard, on va parler du Portugal et d'une réunion d'une commission thématique pour les affaires consulaires et participation civique, réunion le 26 et le 27 mai, dans un moment où on attend le résultat des élections législatives en ce qui concerne la diaspora. Le comptage des votes va avoir lieu le 28 mai. Et on ira après jusqu'au Musée de l'Homme, conférence de l'esclavage, un passé qui nous façonne, lundi, ça va demain déjà, 26 mai, à 19h, Musée de l'Homme à Paris. Et après, deux bouquins. Et là, on parle de censure, etc., etc. Pour ceux qui au Portugal disent, dans le temps avant, c'était très bien. Ça a tout changé aujourd'hui, mais enfin, on va parler d'une anthologie de poètes, La résistance de Fernando Pessoa au 25 avril 1974. Et pour continuer à parler de la censure au Portugal, eh bien, encore un bouquin. Cinéma et dissidence des ciné-clubs portugais pendant la dictature de Salazar. On aura avec nous Eurydice da Silva. Mais enfin, Théophile, merci d'être là. Alors, on peut dire que ça atterrit depuis pas trop longtemps en France, parce que Cesaria Évora Orchestra, ça tournait un petit peu partout.
Depuis le mois de février, on a fait quelques tournées, notamment aux États-Unis, au Canada, et là on vient de rentrer de Pologne il y a 3 jours. Mmh. Ouais, c'est vrai que...
Donc le prochain concert, ça sera le 4, donc le 4 c'est samedi prochain.
Le 4.
Oui.
Je crois que c'est en semaine, non, le 4. Je crois que
c'est un samedi.
Le 4 juin, c'est un mercredi,
non, pardon, mercredi. Le samedi, ça sera le 7. Bon, c'est mercredi entre 19h et 23h, la Marbrerie à Montreuil-sous-Bois, mais c'est collé à Paris, il n'y a pas de souci.
Absolument.
Alors, il faut dire que ça fait 10 ans que Cesaria Évora Orchestra a été constituée.
Oui, on peut dire depuis 2012... je me souviens que le festival Rio Loco de Toulouse nous avait invités.
J'y étais.
À faire un concert hommage à Cesaria. Donc, nous étions restés quelques jours là-bas pour répéter. À l'époque, il y avait aussi Tito Parige, Lourdes. Pardon. Et donc, on a fait 2 concerts à Rio Loco. Et ensuite, nous sommes allés à Lisbonne, au Coliseu de Jerez. Voilà, on a fait un concert là-bas et c'est parti comme ça. De retour en France, on a fait le cirque d'hiver en septembre 2012. Et après, on a eu quelques concerts sporadiques, un peu partout dans le monde, enfin, plutôt surtout en Europe. Et donc, ça fait à peu près 2 ans qu'on a stabilisé ce groupe.
Il y a Suzanne, Elida Almeida, Lucibel et Théophile Schenter, bien entendu. Alors, 3 femmes. C'est un choix, c'est un symbole.
Oui, c'est un choix parce que par rapport à Cesaria, donc elle-même était.
Ouais.
Donc il fallait qu'il y ait des voix féminines très très présentes et moi en tant que compositeur de Cesaria, disons j'encadre un peu le côté artistique.
Vous êtes accompagné par un certain nombre de musiciens, il faut parler les autres.
Oui, absolument. Nous avons 7 musiciens avec nous, mm-hmm. dont certains qui ont accompagné Cesaria. Nous avons des Capverdiens. Récemment, il y a un bassiste qui vient de l'Angola et deux musiciens français, trompette et saxophone. Donc, c'est un orchestre, multicolore.
Voilà, c'est qu'on appelle, on fait de la world music, oui, comme on dit. Mais à ce propos de Théophile Schenter et Cesaria Évora, on va écouter quelque chose, c'est un duo d'ailleurs, toi et Théophile Schenter, c'est ta composition, tes paroles, ta musique, ça il faut pas l'oublier. On va écouter un petit extrait. Théophile Chantre, je pense qu'il y a une histoire hein, de cette chanson, non?
Cette chanson, oui, c'est bon, on peut traduire par de mère à fils. C'est l'histoire de retrouvailles entre une mère et son enfant après que celui-ci soit égaré. Donc sa mère le retrouve, va le pardonner, va le prendre dans ses bras et tout va finir par tout avec entouré de beaucoup d'amour. Et à l'époque, donc j'ai pensé à Césaria pour jouer un peu le rôle de ma mère dans cette chanson.
Alors on associe souvent Théophile Chantre, Césaria Evre. Bon, c'est un honneur, très bien.
Absolument.
Mais Théophile Chantre, c'est pas que ça. Je te demande pardon d'utiliser cette expression-là. Mais oui. C'est pas que ça, Théophile
Chantre. Oui, Césaria a eu un rôle très important dans ma carrière, dans le fait de pouvoir vivre de la musique. Disons, une grosse partie de mon histoire, c'est avec elle. Mais c'est vrai qu'en parallèle, j'ai fait aussi mes propres albums, j'ai collaboré avec d'autres interprètes, que ce soit des Cap-Verdiens ou des Français ou autres.
Oui, maintenant, je pense à Bernard Lavilliers, par exemple.
Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Bernard Lavilliers, ça reste encore lié à Césaria. C'est encore grâce à Césaria, puisque Bernard voulait faire un duo avec Césaria, donc j'ai été sollicité pour écrire la partie en cap-verdien pour que Césaria puisse lui répondre dans cette chanson. En fait, c'est une chanson en hommage à Césaria, qui s'appelle « Elle chante ». Et moi, j'ai fait en sorte que Césaria lui réponde en lui disant pourquoi elle chantait, qu'est-ce qu'elle ressentait en chantant.
C'est un vaillement, Bernard Lavilliers, il est coutumier du fer, parce que d'ailleurs, il a été au Brésil, il a même enregistré des chansons en portugais.
Oui, il a fait quelques escapades vers le portugais. Et après, bon, par la suite, j'ai eu la chance de l'inviter sur un duo, sur mon disque précédent, qui s'appelle Mestissage. On a fait un duo ensemble.
Ouais. D'ailleurs, à ce propos, il y avait des petits disques à toi. Bon, le dernier, bon, je l'ai là, c'est un CD, mais on peut écouter aussi les chansons par les plateformes, et pas seulement. Dernier, ça a été en 2011, justement, je pense que c'était Métissage, le dernier.
C'était ça, oui, ouais. Il sortait en 2011. Bon, entre-temps, j'ai collaboré avec pas mal de monde, j'ai été invité sur des projets, avec des artistes français, et j'avais beaucoup de chansons aussi dans mon tiroir, que j'ai utilisé pour émotionnellement. Il y a une chanson notamment qui s'appelle Futuro d'Evolução, qui était destinée à Césaria, mais bon, malheureusement elle a pas eu le temps de la chanter. Ouais. Une chanson qui parle de la transmission, du temps qui passe, des traces qu'on laisse sur les rivages de ce fleuve qu'est la vie.
Alors c'est pas pour rien non plus que t'es allé enregistrer deux disques à Mindelo, oui. Avec un certain nombre de comparses. Hein. Les comparses, tous. Bon, société.
Oui, j'étais à Mindelo, j'ai notamment collaboré avec Hernani Almeida, qui est un guitariste arrangeur, qui arrange pour beaucoup de monde. Mmh. Et j'ai aussi, la plupart des musiciens, en fait, ils viennent de Mindelo. Que ce soit le batteur, le bassiste, des guitaristes, pianistes. Et ensuite, en France, j'ai enregistré des cordes ici avec des musiciens français. Et le mixage aussi a été fait ici.
Voilà, c'est bien. Bon, c'est en même temps, tu as profité pour... Oh, chaque fois que je pense à cette baie, abbaye de Mindelo, mes amis. Bon, je voulais passer que j'aime manger au bord de l'eau. Bon,
c'est justement, je pars au Cap-Vert pour enregistrer une vidéo sur une chanson qui fait référence aussi à cette baie. Donc, je pense que tu auras l'occasion de revoir cette baie sur la vidéo.
Bon, alors, on a parlé de l'eau. Justement, il y a une exposition au bord de l'eau, sur la Seine, à deux pas, hein, du théâtre de la ville. César Lièvre, portrait d'une icône, une expo qu'on pourra voir jusqu'au 9 juin. Tu l'as vu? Tu l'as visité. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est intéressant d'avoir ton regard.
Non, c'était, pour moi, c'est très touchant de voir toutes ces photos. Et en plus, elles sont très belles. Il y a les photos avec un descriptif, c'est très bien fait. Donc j'étais ému de voir en pleine sur les berges de Seine. Puis j'avais beaucoup de ce jour-là, il faisait très beau, il y avait beaucoup de gens autour. Certains bien sûr qui étaient assis à côté, d'autres qui venaient exprès pour regarder cette exposition. C'est une très belle exposition. Donc je conseille à tout le monde de passer la voir.
Bon, alors la fautive dans tout ça, elle est déjà en ligne avec nous. Émilie de Silve, bonjour.
Bonjour à tous. Merci de me donner la parole aujourd'hui et merci pour ce moment.
Alors, donc, l'expo Mairie de Paris, mais avec l'association Les Arts Voyages. Alors, vous faites partie de ce que, bon, je ne sais pas si on peut appeler deuxième, déjà troisième génération d'origine capverdienne. Je déteste, bon, on parle comme ça. Bon, je suis contre, mais enfin, je l'utilise quand même. Donc, vous avez un regard différent par rapport au Cap-Vert, par rapport à César Lièvre. Et je ne sais pas si je voulais confronter votre regard avec celui avec Théophile Schoen. Mais dites-nous un peu.
Oui, écoutez, effectivement, je suis de cette troisième génération des Capverdiens. Je suis née en France, j'ai grandi en France, je suis de parents Capverdiens. Et j'ai grandi, effectivement, avec cette culture de mots sur cette exposition. Cette exposition, Césaria Evora, portrait d'une icône que nous présentons actuellement sur les berges de Seine et au Théâtre de la Ville, est un hommage à Césaria, c'est un hommage aussi à notre histoire dans le cadre des célébrations des 50 ans de l'indépendance du Cap-Vert. Et nous avons voulu, dans ce travail de mémoire, rendre hommage à cette femme exceptionnelle, à cette voix inoubliable, à cette âme capverdienne devenue universelle. Hein. Cette exposition, c'est, à mon sens, d'abord une déclaration d'amour à Césaria Evora, bien sûr, mais une déclaration d'amour aussi au peuple capverdien, à ses luttes, à sa résilience, à sa musique. Et voilà, et donc c'est un travail de mémoire que nous avons voulu construire autour de photographies. Je reprends les termes de Théophile que je remercie, c'est ces photographies très belles, rares, intimes aussi, de la vie de Césaria et de son passage à Paris et aussi et sa vie au Cap-Vert et des choses aussi très profondes qu'elle a chantées autour de la soudade qui est un terme très très fort qui est indescriptible et indéfinissable mais qui représente voilà le l'âme du Cap-Vert cet enracinement, cet déracinement et cette question que l'on se pose toujours de savoir qu'est-ce que l'on est en fait dans un pays où que l'on quitte souvent, que l'on quitte à contre-cœur parfois parce que l'on doit partir pour des raisons économiques, pour des raisons familiales et que l'on retrouve avec grand plaisir parce que c'est quelque chose qui est au fond de nous en réalité. Donc voilà, donc c'est une exposition qui est en plein air, qui est libre d'accès et qui invite à la contemplation et à la rencontre et c'est une invitation voilà à flâner, à écouter autour de ces photographies. Et à ressentir, je l'espère, voilà. C'est à mon sens une manière, voilà, de transmettre à cette jeune génération, dont je fais partie aussi, pour faire découvrir Césaria aux nouvelles générations, pour montrer comment cette femme, hein, partie d'une petite île de l'Atlantique, a su toucher le monde entier avec une seule arme qui était sa vérité, sa voix nue, qui est sans artifice, sans fioriture. Elle a fait découvrir les îles du Cap-Vert dans les années 80-90 à travers voilà son âme, à travers sa voix et ses silences et l'impact qu'elle a eu à travers sa voix. Et elle est restée toujours elle-même, a eu beaucoup de répercussions aussi sur le peuple capverdien et sur la manière dont elle a mis en lumière ce petit pays dont on est cher et dont qui est cher à notre âme, voilà.
Voilà. Alors, Théophile Schoen, bon, c'est la réaction, c'est elle vit, Émilie Silve, et elle vit ça, qu'est-ce que t'en penses?
Oui, bonjour Émilie.
Bonjour Théophile, oui. Bonjour.
Bonjour. Non, je tenais à vous féliciter pour cette initiative, qui est vraiment, enfin, vraiment louable. de présenter Césaria sous, comment dirais-je, avec cette belle exposition. J'espère que ça va toucher le plus grand monde et notamment les jeunes, puisque c'est très important cette transmission pour que sa mémoire reste pérenne. Merci encore.
Merci, merci à vous, merci pour vos encouragements. Et effectivement, nous espérons que cette exposition touche le plus grand nombre. Nous avons la chance qu'elle soit en plein cœur de Paris, dans un passage où il y a voilà, du monde qui peut aller découvrir ou redécouvrir la vie de Césaria Evora. Et voilà, nous espérons que cette exposition, mais d'autres projets ensuite, et nous avons envie aussi que cette exposition soit vivante et circule autour de Paris, mais pas que. Et on peut aussi réfléchir à la faire voyager en France et à l'étranger. Et nous espérons à travers cette exposition de faire toucher, de toucher le plus grand monde.
J'ai quelques personnes qui m'ont contacté, me disant si c'était possible de les amener, par exemple, au Cap-Vert. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si on peut le faire au Cap-Vert, au Luxembourg.
Absolument. Alors, c'est le but.
Oui, c'est le but. Émilie, déjà, il y a un but. Je pense, est-ce que ça se confirme qu'une partie de l'expo va être à la Marbrée?
Absolument. Ah, nous avons déjà reçu des propositions pour que l'exposition ait lieu. Notamment en août, hein, c'est lors de ces célébrations aussi de sa mémoire. Je sais qu'il y a beaucoup d'événements à Mindelo et nous avons déjà reçu des propositions pour faire que cette exposition existe sur la place en face de la grande fresque de Césaria Evora. Donc ça va être une occasion mémorable de faire redécouvrir son passage aussi à Paris, parce que cette exposition est aussi autour de ses débuts de carrière internationale à Paris. Donc c'est évidemment quelque chose auquel on pense et on est très positif face aux propositions qui nous sont faites. Oui.
Bah, Émilie, merci, bon vent, et au fur et à mesure qu'il y a des initiatives de l'asso Les Arts Voyages, on est disposé à voyager avec vous.
Merci de nous donner l'écoute, merci beaucoup pour donner cette fenêtre pour mettre en lumière Césaria Evora et à travers aussi nos projets Les Arts Voyages, de mettre en lumière d'autres artistes et d'autres mouvements autour des célébrations de la culture qui, ne l'oublions pas, est un pont, est une manière pour nous de relier aussi les continents, de relier les générations, de relier les dynamiques, les disciplines, parce que l'art est grand, l'art est de la musique, mais l'art aussi est peinture, l'art est musique, l'art est livre, et autour de ça et autour des activités des arts voyages, le but est de relier voilà, ces grandes dynamiques.
Merci Émilie, je pense qu'on va se voir le 4 à Montreuil.
Absolument, absolument. D'accord. Avec grand plaisir, on viendra, je viendrai vous soutenir à la Marbrerie. Et c'est une formidable manière de célébrer aussi Césaria Evora à travers la musique et à travers le chant.
Voilà, le 4, c'est un mercredi. Hein. Mercredi, merci
Théophile. Et oui, absolument.
Mercredi, il ne faut pas l'oublier. Merci Émilie, bon vent, c'est le cas de l'Oder.
À bientôt. Parce que,
à très bientôt.
Merci. On reste toujours au bord de l'eau. Théophile Fuchsinter, tout à l'heure, on va écouter un extrait de ton album, justement la chanson Émotionalmente. Ça y est, j'ai réussi à le prononcer correctement. J'avais dit 2011, 2025. On en parlera tout à l'heure. On va faire une petite respiration, si tu nous permets. On reviendra après, avant d'écouter la chanson. Ben, comme dirait l'autre, on a eu le temps de respirer, très peu. Mais enfin, bon, Théophile Fuchsinter, on arrive à la fin de la conversation, malheureusement. C'est vrai que, je vais dire quelque chose à nos auditeurs qu'on ne devrait pas le dire. T'es venu à pied. Sous la pluie, avec un
parapluie. Non, parce que je suis pas loin d'ici. Quand je viens à Paris, j'ai la chance d'avoir ma mère qui habite pas loin, donc comme j'héberge chez elle, et quand je suis invité à Radio Alpha, j'aime bien faire cette balade jusqu'ici.
Ça fait du bien pour les, pour le rythme cardiaque, j'en passe les meilleurs. Alors, je disais, donc cet album, c'est un album, t'es allé chercher des trucs dans le tiroir, mais je pense que le choix des chansons, ça n'a pas été du hasard. C'est-à-dire, t'as pas pris les premières que t'as trouvées dans le tiroir, mais il y a un choix. Fait que t'aies enregistré à Mindelo, c'est-à-dire, il y a un ensemble de choses qui font que cet album, et Monsieur Dormain, c'est...
Oui, peut-être de façon intuitive même, c'est vrai que j'avais une trentaine de chansons. Et donc, j'ai dû en choisir. Donc, il y en a 14. Donc ça mûrit pendant longtemps. Je refaisais les répertoires jusqu'à ce que je trouve la bonne séquence. Et après, bien sûr, je suis parti au Cap-Vert puisque j'avais décidé de faire ça en acoustique avec des musiciens cap-verdiens. Voilà, donc j'ai fait ça de façon très, comment dire, très naturelle, sans a priori, sans rentrer en studio.
Ça veut dire que t'es revenu à l'ancien temps. Je veux dire qu'avant, bon, on était des artisans de la musique. Vous étiez des artisans de la musique. Aujourd'hui, avec tous les appareils électroniques, bon, aujourd'hui, on fait de la musique sans musicien. C'est une autre affaire, c'est pas de la musique.
Mais oui, c'est
et t'es revenu peut-être à la base de...
Là, j'ai fait, disons... Pratiquement tous mes disques ont été faits comme ça. Je fais toujours la base, moi, voix et guitare. Après, les autres musiciens qui viennent intégrer leur partie. Et là, en l'occurrence, c'était fait comme ça. Et la partie technique, informatique, vient ensuite avec le mixage.
Alors, César Yav Orchestra va tourner. Bon, déjà, c'est mercredi prochain, le 4, à la Marbrerie qui se trouve à Montreuil, justement. Mais il y a d'autres concerts qui vont avoir lieu dans la région parisienne, mais ça, il faut attendre le mois de décembre, à Goussainville, à Noisy-le-Sec, à Fontenay-sous-Bois, et après 2026, il y a des dates pour le... Alors, mais si on parle de Fontenay-sous-Bois, si on peut avancer, il y a une date très importante, c'est le samedi 21 juin, au comptoir Al Roblot.
Oui, j'étais invité pour faire la fête de la musique cette année. Bon, c'est un lieu que je connais bien puisque j'ai souvent fait leur ouverture de saison. Et là, donc, ils m'ont invité pour fêter la musique et pour l'occasion, j'invite Mariana Ramsch et Seozani pour se joindre à nous pour cette fête.
Il y a sept autres musiciens, hein. J'ai la liste devant moi. Donc, Jacques Fourniret, Sébastien Gastine, Fabrice Thompson, Kim Dan Lee Hockmeck.
Oui, ils sont mes musiciens, je veux dire, entre guillemets, historiques. Uh-huh. Puis ça fait des années qu'ils me suivent. Voilà, je tenais aussi à avoir ces musiciens-là. Pour cette occasion.
Attends, jusqu'à quel point, bon, chacun, bon, il y a, bon, c'est des instruments différents, bien entendu, mais même des origines différentes, ça se ressent un petit peu dans la façon comme ils jouent, comment tu fais avec eux, parce que bon.
Oui, ils m'apportent de leur culture musicale, mais ça fait tellement longtemps qu'ils m'accompagnent que je pense qu'ils ont bien intégré.
D'accord, il suffit de regarder.
Oui, les musiques qu'on fait, donc ils m'ont aidé aussi à créer une certaine sonorité dans mon répertoire.
Mmh. Ouais. Alors, il y a ces concerts, tu vas profiter, tu as déjà commencé à composer des nouvelles chansons, maintenant c'est le break.
Non, je compose toujours, dès que j'ai une idée, je compose. Il me reste encore plein dans mon tiroir. Donc je suis prêt à faire un nouvel album d'ici l'année prochaine si jamais tout le monde est d'accord.
T'es arrivé en France, t'avais 14 ans.
J'ai 14 ans, c'est ça.
Donc c'est...
Oui, ça commence un peu à compter.
Bon, ça compter, mais toujours le besoin de...
Non, j'ai gardé toujours un lien avec mes origines, mes racines. Bien que je me sens très, très bien intégré ici, bon, j'ai fait toute ma scolarité secondaire, j'étais à l'université, mais j'ai toujours gardé un pied au Cap-Vert. Ça m'a jamais quitté, ça.
Finalement, c'est nos origines qu'on
vient. Oui, absolument, c'est important. Hein. C'est important, comme on dit, c'est très important de savoir où on vient pour pouvoir avancer.
Et en même temps, on a cet avantage-là, on a deux cultures.
Oui.
C'est-à-dire, on sait de quoi on parle, on a une ouverture d'esprit, tout au moins au niveau de la langue, et pas seulement. Et pour un certain nombre de personnes, elles ont du mal à comprendre.
C'est beaucoup. L'ouverture aux autres, c'est beaucoup être... Avoir une double culture, être bilingue ou même trilingue, ça compte beaucoup. Moi qui ai la chance de voyager beaucoup avec la chanson, je me rends compte, dans chaque pays que j'arrive, je me sens pas complètement étranger, puisque finalement l'être humain est le même dans son essence.
Merci d'être venu dans les studios aujourd'hui, c'est dimanche 25 mai. Je vais te demander quelque chose. Si tu peux faire un appel justement pour aller au concert mercredi prochain, le 4, entre 19 et 23 heures à la Marbrerie à Montreuil, faire un appel pour aller au concert, mais en créole.
En créole, donc. Nous avons gauché à te couvrir à tout qui est tout vinoche, tout gavrianche et non sans. Bah, si je dis ce concert, on dit que notre, bah, créer quelle atmosphère de concert de Cesari, e render um belo homenagem pelo menos esperar e esperar também do apoio de vocês tudo para ver essa noite maravilhosa.
Obrigado, Teófilo.
Obrigado.
E para terminar, precisamente, vamos ouvir emocionalmente. Obrigado mais uma vez. Voltamos ao Direto Passagem Nível neste domingo, dia 25 de maio, e uma semana depois das eleições relativas, a Comissão Temática para os Assuntos Consulares, Participação Cívica e Política do CCP reúne-se nos dias 26 e 27, e como que diz, amanhã e depois em Lisboa, e vai estar como observadora na contagem dos votos da imigração que decorre no dia 28. Neste momento, Rui Ribeiro Barata, Conselho das Comunidades, e igualmente que é o coordenador desta comissão, vai a caminho de Lisboa e gravámos a entrevista ontem. E começámos por perguntar, precisamente a Rui Ribeiro Barata, o que pensa precisamente do resultado das eleições legislativas do passado dia 18 de maio.
Tudo é com alguma preocupação, confesso-lhe, que acompanhamos os resultados destas últimas eleições legislativas em Portugal, em que, pelo menos nós, com o olhar atento que podemos ter de fora do nosso país, quem vive fora, é bastante preocupante ver que a extrema-direita em Portugal, à semelhança de vários países europeus, começa a ter um peso alarmante. É óbvio que isto demonstra que a sociedade portuguesa e os eleitores portugueses acabaram por castigar um pouco a esquerda e talvez ainda mais o PS, o maior partido da oposição, pelo facto de terem, de certa forma, provocado estas eleições, digamos assim, ou de certa forma ajudado a que houvesse estas eleições e notou-se que a sociedade em Portugal reforçou a sua votação na direita e na extrema-direita, o que para nós, nas comunidades portuguesas, é preocupante porque são movimentos que nós conhecemos já nos nossos territórios, aqui em França, como é óbvio, e sabemos bem a dificuldade que esses partidos têm na sua falta de maturidade em trazer soluções aos problemas reais das pessoas e, como é óbvio, esta subida dos populismos europeus e também em Portugal, que nós até tínhamos a sensação que o nosso grande Portugal naquele cantinho estaria resguardado destes movimentos, pois bem, não, a história diz-nos que em Portugal também a sociedade acompanha estas tendências preocupantes e veremos para as comunidades portuguesas o que é que esta nova direita, unida ou separada, consegue fazer em prol das políticas destinadas aos portugueses no estrangeiro. Nós já percebemos que tanto o PS como o PSD, ao longo da história, têm tido alguma dificuldade, como é óbvio, em resolver os nossos problemas. Não sei, Arthur, veremos se esta nova composição fará com que haja aqui acordos mais significativos na resolução das nossas problemáticas, na implementação de novos métodos de voto, em alterações legislativas na Constituição. Pode ser complicado porque estes dois terços, não sei se será possível ter consenso na mesma, mas há aqui alguma expectativa mesmo assim e alguma preocupação, como é óbvio, porque é uma situação inédita em Portugal e temos que ver como é que o Parlamento vai reagir e as instituições com esta nova composição em Portugal. É interessante ver que os meios de comunicação social em território nacional continuam sempre a esquecer-se um pouco da eleição dos 4 deputados da imigração, referindo que muitas das vezes as eleições já correram, já foi no dia 18 e pouco se fala desta importância desta eleição destes 4 deputados e que nós infelizmente tememos, como é óbvio, que o partido da extrema-direita portuguesa volte a eleger pelo menos 2 deputados, o que fará com que muito provavelmente a extrema-direita será o segundo partido, ou pelo menos o maior partido da oposição.
Da oposição, mas Ribeiro Barata, teremos que esperar pela contagem dos votos, que é no dia 28. Mas quando se vê essa tendência, bom, eu tenho assim, mundial, não é só europeia, precisamente, por exemplo, a esmagadora maioria da imigração romena votou a favor de um candidato também da extrema-direita. Eu faço uma pergunta, bom, talvez esteja anjinho, não sei, mas essas pessoas esqueceram-se de onde é que vieram, que esquecem a condição deles de imigrantes, ainda que, bom, somos cidadãos europeus no que diz respeito à Europa. Esquece-se aquilo que nós somos na realidade?
Arthur, eu acho que é mais complexo do que isso. É óbvio que as pessoas não esquecem o trauma que pode ser deixar as suas terras de origem para procurar uma situação melhor, conquistar algo de maior que no seu território natal não conseguiram. Eu acho que isto é ainda mais complicado de analisar. Dá-me a sensação de que as pessoas, por falta também de informação, de literacia política partidária, no fundo desconhecem os valores que esses partidos, na sua base e na sua gênese, veiculam. E também por considerarem que o sistema atual não funciona, ou por considerarem que os partidos históricos não conseguem defender os interesses e as preocupações das pessoas que vivem no estrangeiro. Eu acho que é também muito por isso. É a falta de reação por parte dos partidos que estão constantemente no poder e não conseguirem resolver os problemas das pessoas no estrangeiro e de não os ouvirem. E eu posso compreender isso. Posso compreender que na Suíça, por exemplo, a comunidade portuguesa se vir muito também para os partidos de extrema direita, talvez por isso mesmo, porque em Portugal os partidos históricos não dão ouvidos a quem reside no estrangeiro e também porque há comunidades que têm grandes dificuldades em se integrar nos seus países de acolhimento. Isso nota-se também nas comunidades portuguesas, tanto na Suíça como no Luxemburgo. Quando as comunidades têm dificuldade em se integrar nesses próprios países de acolhimento, podemos notar que há aqui um crescimento na votação dos países de origem em partidos de extremistas e populistas, o que para nós causa uma certa preocupação, mas temos que analisar esse fenómeno com cuidado e cabe também a Portugal, ao sistema universitário, aos institutos de ciências políticas, de efetivamente aprofundar esse tema e essas questões. É interessante que nós, nos dois dias de reuniões que vamos ter em Lisboa, no dia 26 e 27, vamos também reunir com o Observatório da Imigração, que é um observatório que trabalha com o Instituto ISCTE em Lisboa, e essa vai ser uma das temáticas, a percebermos se há trabalho para ser desenvolvido nessa área, porque há muita comunidade portuguesa que está a ter essa tendência de votar em partidos extremistas e temos que perceber porquê que isso acontece.
Sim, é um abandono, há que chamar um gato é um gato, não é nenhum cão. Mas a propósito destas eleições, há cerca de 10 dias atrás, sensivelmente, já perto de 80 mil votos, envelopes tinham sido devolvidos para Portugal. Ora, quer dizer, isto levanta um certo número de questões, porque finalmente uma das bandeiras do Conselho das Comunidades, e não só, era a possibilidade de um voto eletrónico. E a esse propósito, vocês enviaram um correio com um certo número de questões, de perguntas, aos partidos políticos candidatos às legislativas de 18 de maio. Será que já tiveram alguns ecos, responderam-vos, não responderam? Eu sei que, bom, agora vai demorar tempo a fazer a síntese disso tudo, mas poderá já nos dar, digamos, um apercebido disso?
Sim, efetivamente houve partidos que responderam, alguns com algum atraso, mas mesmo assim nós vamos considerar as respostas. Mas cerca de metade dos 18 partidos deram-nos uma resposta por escrito. E nós, é óbvio, como diz o Arthur, nós vamos fazer um trabalho de recolhimento dessas respostas que depois tornaremos público. Mas é mais uma vez interessante ver que por vezes os maiores partidos não responderam e os partidos populistas, mais populistas ou extremistas, também não responderam às nossas questões. Por isso é importante que as pessoas possam ter essa noção de quem respondeu, o que têm como alternativas e como ideias e como propostas para as nossas comunidades portuguesas, para mais de 1 milhão e 600 mil portugueses recenseados no estrangeiro. Mas é como diz o Arthur, isto vai ser um trabalho que vai levar um certo tempo, mas que é óbvio que vai ser importante, até para que a ideia, o que é quem nos respondeu e pelo menos que estiver no governo nos próximos anos, nós possamos anualmente questionar esses governos sobre o que é que foi feito até agora, que isso também é algo que não está muito na cultura portuguesa, pelo menos na política portuguesa, que é o dar contas. Ou seja, a propaganda política é muito bonita, permite ganhar eleições, mas depois temos que prestar contas. E há países na Europa que o fazem muito bem, há deputados no norte da Europa semestralmente que reúnem com eleitores em reuniões de apresentação e que dão conta do seu trabalho. Acho que isso, temos aqui ideias que Portugal pode precisar, nomeadamente a política portuguesa pode precisar, até também para criar aqui esta sensação de transparência na gestão pública que por vezes tanto peca no nosso país e que são temas que devem ser aqui trabalhados.
Rui Ribeiro Barata, uma questão ainda. Atualmente, bom, a maioria relativa, mas enfim, quando digo relativa, é porque não é absoluta da parte do Partido Social Democrata, ou seja, da coligação AD, PSD e CDS-PP. Ora, sabendo que há um ano esta parte, porque o problema está aí, eleições 2019, 2022, 2024, 2025. Bom, andamos nisto. Mas, tendo em conta aquilo que se passou, significa que, relativamente a um governo PSD, bom, o secretário de Estado, José Sali, foi diversas, já ocupou diversas vezes esse cargo, de maneira que vocês estariam, entre aspas, mais à vontade para os encostar à parede, por um lado, ou dizer, meus amigos, vocês avançaram com um certo número de coisas, mas não chega. Não sei se não, trata-se de uma antecipação política. Bom, nós estamos aqui a fazer ficção. Com efeito. Mas, enfim, de maneira que, de qualquer maneira, vocês têm já uma linha mestra daquilo que é necessário.
sim, Artur, e é verdade que uma certa estabilidade dos trabalhos que nós começámos há um ano no Conselho das Comunidades, é óbvio que o facto de se manter o secretário de Estado, como dizes, e muito bem, hipoteticamente, porque hoje não sabemos qual será a futura composição do governo, mas para nós, de certa forma, seria importante, porque há aqui trabalho que foi iniciado. Tivemos aqui um plenário na fevereiro, unicamente exclusivo a questões das comunidades portuguesas, ou seja, temos que criar aqui um consenso de que há uma real necessidade de se alterar aqui leis de forma profunda, nomeadamente as leis eleitorais. E é óbvio que aqui o facto de mantermos um secretário de Estado, de mantermos um mínimo de coerência do governo, agora com uma composição da Assembleia diferente, de certa forma pode talvez nos ajudar, porque nós sabemos historicamente que há aqui partidos como o Partido Comunista, como o Bloco de Esquerda, há partidos em Portugal que são contra as alterações da lei eleitoral e nomeadamente o facilitar o acesso ao voto eletrónico pela internet para as comunidades portuguesas. E aqui temos que aqui tentar perceber agora o que é que o PS, o que é que o Chega, nomeadamente, vão achar dessas iniciativas e se conseguimos aqui nós ter aqui uma janela de tiro, digamos assim, para aproveitar durante estes anos, ou não sabemos quanto tempo esta nova composição da Assembleia pode durar um ano, como pode ir até 4 anos, tudo vai depender dos acordos políticos que se consiga ter na Assembleia, nesta nova composição. Mas talvez haja aqui uma oportunidade para as comunidades portuguesas de tirar partido desta composição. E é óbvio que ter uma certa estabilidade governativa é extremamente importante para que as nossas questões possam ir à frente. É óbvio que se nós daqui a um ano voltarmos a ter eleições legislativas antecipadas, com todos estes problemas de as pessoas não conseguirem atualizar as moradas nos cartões de cidadão, não conseguirem ter tempo de se irem recensear, porque infelizmente o recenseamento requer que as pessoas se desloquem aos consulados, porque é que não podemos fazer isso pela internet, como a França o permite. Enfim, há aqui tantos entraves que para nós precisamos urgentemente de estabilidade. Em janeiro para o ano vamos ter eleições presidenciais, aqui vamos ter aqui uma alteração novamente na composição da República Portuguesa, porque o atual presidente não se poderá recandidatar. Enfim, precisamos de certa forma que este nosso novo Parlamento se estabilize, tenha tempo de perceber as nossas problemáticas. Mais uma vez iremos ao contacto dos partidos. Eu queria também dizer que nestas reuniões de segunda e terça-feira não vamos conseguir a Assembleia da República. As reuniões vão ter lugar no Ministério dos Negócios Estrangeiros e infelizmente não vamos à Assembleia porque não há composição, não há deputados que vão estar presentes na Assembleia da República. Ou seja, nós aqui vamos preparar um correio para enviar a todos os partidos para quando eles chegarem à Assembleia tenham conhecimento que nós reunimos em Lisboa e que determinamos que certas áreas são prioritárias e por que motivos é que esses temas têm que ser trabalhados. Enfim, é óbvio que a estabilidade é importante para não estarmos sempre a recomeçar do zero, porque isto também é uma sensação que nós temos. Nós já há 8 anos, pelo menos eu há 8 anos que estou no Conselho das Comunidades Portuguesas, tenho sempre a sensação de que muda a composição do Parlamento e temos que voltar a falar do mesmo, a sensibilizar os deputados da mesma forma, quais são os nossos problemas, em que é que estamos, vamos encontrar soluções, e é óbvio que isso não nos ajuda em nada em que a situação possa ser resolvida. Por isso vamos aguardar com serenidade, acho que isto é importante, vamos deixar a voz dos portugueses do estrangeiro ter os seus resultados dignamente, sem problemas. É importante que aquelas mesas de voto em Lisboa funcionem dignamente e com transparência, e depois, pronto, e depois cabe-nos a nós esperar também de que o Presidente da República possa impulsar um novo governo e começar a trabalhar de forma séria e deixarmos estas questões de à volta de extra-política que muitas vezes acabam por danificar ou por perturbar também a resolução dos problemas e da vida das pessoas.
Rui Ribeiro Barata, muito obrigado e, evidentemente, depois vamos tentar tirar as conclusões da vossa reunião e, na medida em que vocês vão estar como observadores na contagem dos votos, também a vossa análise sobre aquilo que se passou e aquilo que vai ser o futuro da imigração a nível da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Artur Silva.
Deuxième heure de passage à niveau, ce dimanche 25 mai, on est en votre compagnie jusqu'à 14h. Émission, je rappelle, rediffusion dans la nuit du mardi au mercredi à partir de 0h, sans oublier le podcast. Maintenant, on va parler d'une conférence, Esclavage, un passé qui nous façonne encore. Ce titre, quel impact l'esclavage a-t-il encore aujourd'hui? Histoire, génétique et mémoire se rencontrent pour en débattre. Cette conférence aura lieu demain, lundi 26 mai, à partir de 19h, au Musée de l'Homme à Paris. Avec nous, un historien, je vais parler d'Antonio d'Almeida Mendes. Antonio d'Almeida Mendes, bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Bonjour Arthur Silva, bonjour à toutes et à
alors,
tous.
Alors, vous êtes enseignant, chercheur au département de l'histoire à l'université de Nantes. Alors, le thème de la conférence, on pourrait passer une heure ou deux, hein, mais ça sera ici dans le studio. Mais on peut dire, bon, je vois les choses à ma façon. Hein. Vous, comme historien, vous allez me contredire, probablement. Oui. Mais enfin, il s'agit quelque chose de très important, et aujourd'hui plus que jamais, de déconstruire des idées reçues et surtout les héritages multiples de l'esclavage. Vous avez un regard d'historien, il faut le rappeler.
Oui, ça c'est important pour donc cette conférence. Elle sort un peu du cadre habituel, comme vous l'avez dit. Il y a trois disciplines et ça c'est quelque chose de très important. Donc il y a l'historien où on travaille sur des dates, des faits, des chiffres, donc des sources écrites et orales. Il y aura un anthropologue, généticien, lui qui travaille avec les questions de métissage, d'ADN. Pour remonter un petit peu voilà aux origines et une conservatrice du patrimoine qui travaille sur les héritages, sur les mémoires, ce qui nous façonne. Et je crois que c'est extrêmement très très important de parler au grand public. On n'est pas juste là pour dire la vérité à des faits, on est là pour rentrer dans des choses sensibles, donc des choses qui nous construisent et là on est dans une histoire très sensible parce que c'est une histoire voilà où il y a les faits, on les connaît hein, les dates, l'esclavage étroitement lié à la colonisation qui va durer jusqu'aux années 1975 avec l'Empire portugais. Mais c'est pas juste ça, c'est au fond de nous-mêmes comment on a oblitéré cette histoire et comment cette histoire, elle est là, parce que c'est une histoire qui a duré plus de 5 siècles et dont les héritages sont encore présents aujourd'hui, hein, notamment voilà de notre temps présent. Donc ça va être une conférence, me semble-t-il, à la fois pour le grand public, mais novatrice, puisqu'on n'est pas juste là, vous voyez, pour raconter les dates qu'on connaît hein, déjà. Les faits, on est là aussi pour rentrer dans ce qui nous façonne, nous, hein, notre société, aujourd'hui. Comment elle s'est construite. Mmh. Voilà.
C'est ça qu'on est aujourd'hui. Mais ça n'empêche que, bon, jusqu'à maintenant, justement, un historien, il se base sur des dates, sur des faits qui ont été plus ou moins bien rapportés. Mais ça n'empêche que, justement, là-dessus, c'est jusqu'à maintenant, cette histoire de l'esclavage, et pas seulement, hein, le seul point de vue qu'on avait, c'était celui des Européens. Donc, ils étaient juges et partis hein, là-dedans. Il faut dire aussi, c'est que les peuples, surtout les peuples africains, ils n'ont pas une histoire écrite, c'est une histoire orale. Donc, finalement, même au fait, il faut se méfier un petit peu de l'histoire qu'on a appris à l'école, à l'université, un truc comme ça.
Bien sûr qu'il faut se méfier. C'est-à-dire que l'histoire, comme discipline, elle est apparue à la fin du XIXe siècle. Elle a été inventée dans le cadre occidental, hein, les universités européennes, pour penser la nation. Et même le terme, vous voyez, de nation, c'est quelque chose qui est très hégémonique, hein, une lecture très occidentale de penser le cadre politique dans lequel on vit. Par nature, nous, on devrait vivre dans des empires. Qu'est-ce que c'est que des empires? C'est des sociétés multiculturelles, multireligieuses. Donc, on a construit cette nation et on a imposé, à partir du Xe siècle et avec la colonisation du XXe siècle, hein, cette vision du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire une société. Qu'est-ce que c'est qu'être civilisé? C'est vivre à l'européenne, avec une capitale, une nation, une seule langue. Et les sociétés européennes, et on vient tous hein, d'Afrique, parce que le premier homme vient d'Afrique, ont une autre chronologie. Hein, c'est-à-dire que quand on leur dit 1492, Christophe Colomb, ça ne veut rien dire pour 90% de l'humanité. Ça veut dire quelque chose pour quand on écrit l'histoire de l'Europe. Quand on est historien, on sait que 1492, on dit c'est le temps moderne qui commence. Même le terme de temps moderne, ça veut dire que toutes les autres sociétés du monde, donc non occidentales, non européennes, sont pas moderne. Vous voyez, donc c'est un regard qui est un regard qui s'est construit progressivement à partir du XVIe siècle en disant voilà, le centre de la modernité, là où s'écrit l'histoire, c'est l'Europe. Et le reste du monde doit, d'une certaine façon, vivre à l'heure européenne. Donc depuis quelques années, depuis maintenant une vingtaine d'années, les choses changent parce que y a un regard critique, y compris chez les historiens, on commence à penser une histoire, comment dire, beaucoup plus partagée, à parts égales. Alors ça prend du temps, parce que il faut déconstruire 5 siècles, vous voyez, de représentation. Mais on fait ce travail depuis quelques années, on collabore beaucoup, et donc les historiens africains, et pas seulement africains, indiens ou brésiliens maintenant, ont leur historiographie et ont leur place et leur mot à dire.
Alors, je me rappelle d'une phrase d'un ancien président de la République française, c'est Nicolas Sarkozy, pour ne pas le nommer. Il a fait le fameux discours de Dakar, où il disait, je le dis à ma façon, que l'Afrique n'avait pas d'histoire, qu'ils n'étaient pas rentrés dans l'histoire. Alors, je fais le lien avec quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'héritage. L'héritage de l'esclavage, avec tout ce que ça suppose, et tenant compte de tout ce que vous venez de dire maintenant, et la question d'identité. Parce qu'au milieu de ça, je pense que c'est très important de se poser la question de l'identité. Qu'est-ce qu'on est? D'où on vient?
C'est ça. Donc, c'est toute la difficulté, de mêler histoire et mémoire. Mmh. Et les deux vont être traités dans cette conférence. C'est important parce que souvent, on confond les deux, histoire et mémoire. Et nous, quand on est historien, on a des faits, comme vous le dites, et les faits, on peut les déconstruire, les replacer dans une historiographie un peu plus partagée, intégrer des sources orales et voir la complexité, parce que l'esclavage existe aussi en Afrique, mais voilà comment ces histoires, elles se complètent. Ce qui est compliqué, et ce à quoi l'historien doit faire, et aussi, pas seulement l'historien, mais l'anthropologue, c'est que derrière, il y a des identités. C'est que les individus qui sont passés, y compris par des phases de colonisation, y compris les descendants d'esclaves, ensuite, ils ont tendance, et pas une tendance, c'est une tendance humaine, à reconstruire une identité. C'est-à-dire que dans notre histoire personnelle, on a toujours tendance à mettre en avant quelque chose et oublier une autre chose, parce que cette autre partie de notre histoire, généalogique ou autre, elle est traumatique. Donc voilà, par exemple, dans le cas du Portugal, si on prend le cas du Portugal, on sait très bien qu'on est une société métisse, depuis toujours, depuis le Moyen-Âge. Il y avait des musulmans qui étaient là, ensuite des juifs, les séfarades, ensuite des populations africaines, indiennes, y compris aujourd'hui. Et on a toujours tendance à garder cette question de l'identité. Être portugais, ça serait être catholique, être blanc. Donc c'est, vous voyez, toujours cette tension entre les faits, l'histoire et ce qu'on sait, parce que n'importe qui, vous voyez, peut demander à connaître sa généalogie, on fait des tests, et on verra qu'on est métisse. Et ce qu'on a besoin de construire comme récit pour être attaché à un lieu, pour en même temps revendiquer une appartenance culturelle dans un monde qui est un monde très complexe, où les gens, on leur dit tout le temps, il faut avoir une identité.
Voilà. Attends, au Portugal, à un moment donné, on parlait de sang pur. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les vrais Portugais, comme vous avez dit tout à l'heure, chrétiens, blancs, etc., etc. Alors récemment, il y a eu des études de génétiques qui ont lieu, entre autres, au Alentejo. Et là, mes amis, le sang pur, les vrais Portugais, etc., ça a du plomb dans l'aile.
Oui, alors c'est toute la complexité de l'histoire. J'ai essayé de pas être trop complexe. Et, par exemple, le terme race, on sait que les races n'existent pas. Ça a été totalement déconstruit. Alors, il y a du racisme, mais on sait maintenant depuis un siècle que les races n'existent pas. Mais le terme a été employé depuis le Moyen Âge. Y compris aujourd'hui, aussi avoir du sang noble, c'est avoir, vous voyez, du sang bleu. On venait de la race des nobles. Et donc, pendant très longtemps, avant le 19e siècle, race, ça voulait dire, descendance, la généalogie. On s'inscrit, vous voyez, on dit, mes ancêtres, ou étaient catholiques, ou étaient musulmans, vous voyez. Race voulait dire aussi origine religieuse, ethnique. Et donc, en péninsule ibérique, il y a une histoire qui s'est construite. On a commencé à penser qu'il y avait des gens qui avaient du sang pur, c'est-à-dire du sang qui n'était pas mêlé avec celui d'autres religions. Donc, vous voyez, avant de penser le racisme comme on le pense aujourd'hui, on a pensé qu'il y avait des gens qui, en fonction de leur origine religieuse, avaient des qualités. Et donc, dans ces sociétés ibériques, ceux qui avaient du sang pur chrétien sur plusieurs générations, ils accédaient au pouvoir. Donc, c'était les nobles, ils devenaient rois ou autres. Et ceux qui avaient du sang impur, donc les descendants de juifs et de musulmans, on cherchait dans leur généalogie et ils étaient condamnés à avoir des activités plutôt manuelles. Donc cette distinction, c'est les sociétés. Aujourd'hui, on définit des gens, il y a des citoyens et des étrangers. C'est le cadre dans lequel on vit aujourd'hui. C'est la nationalité et les papiers. Avant l'existence de papiers d'identité, pour dire qui vous êtes, il y avait ces sociétés qui pensaient en termes, voilà, qui est ton père, qui est ton grand-père, qui est ton arrière-grand-père, et ça vous donnait des droits ou pas. Donc vous voyez, l'histoire, c'est de dire que voilà, il y a des choses qui viennent jusqu'au présent, et en même temps, les sociétés évoluent parce qu'on n'est plus dans des sociétés d'ancien régime, heureusement. On n'est plus dans des sociétés comme au XIXe siècle qui pensaient, vous voyez, le processus de civilisation qui est celui, voilà, du XXe siècle sur des bases raciales. On disait, voilà, il faut coloniser l'Afrique, hein, comme, voilà, pour reprendre vos termes, faire entrer l'Afrique dans l'histoire parce que ces sociétés, elles sont restées dans le Moyen-Âge, où elles sont restées obscurantistes. Et ça, c'était une lecture raciale du monde. Donc aujourd'hui, on est toujours dans une histoire très compliquée, complexe. Et on le voit avec les crises actuelles, hein, on peut, vous voyez, se replier sur soi-même. Mais l'histoire, voilà, c'est de dire qu'il y a des continuités, mais aussi des ruptures, parce que l'histoire évolue. Aujourd'hui, on vit plus dans des régimes de ségrégation, on vit plus dans des royautés, on vit dans des démocraties, mais les démocraties, elles sont aussi fragiles. Parce qu'on peut revenir à des questions qui sont des questions troubles, hein, où on va chercher une part de quelque chose chez quelqu'un, son identité.
Alors, à propos, bon, c'est un fait vrai réel, hein, un fait réel. C'est ça que je voulais dire. À un moment donné, pour être menuisier au Portugal, il fallait démontrer qu'on était portugais depuis au moins 4 générations. Bon, voilà, donc il y a des pays qui acceptent pas, bon, le Portugal, la France, je pense qu'on est dans la même situation. Justement, c'est qu'à un moment donné, les peuples colonisés avaient la nationalité des pays qui dominait, bon, le cas de Portugal, la France, la Belgique, on peut continuer comme ça, l'Espagne, d'Angleterre et tout ça. Alors, et aujourd'hui, justement, ces jeunes-là, parce qu'ils sont portugais, d'une part, leurs parents étaient portugais, mais la couleur, là, ça change tout. C'est-à-dire, ils sont de couleur, donc automatiquement, ils sont pas portugais. Ça se passe aujourd'hui en France. En France, bon, qu'ils soient d'origine algérienne ou marocaine, etc., etc., et de l'Afrique noire. Donc, qu'est-ce qui se passe, finalement? C'est que, bon, ces Africains, c'était bien, les tirailleurs sénégalais, mais c'est bien pour un certain nombre de choses, de chair à canon, mais pas pour être des citoyens, disons, de plein pied. Et justement, c'est pas pour rien que maintenant, bon, on rentre, si vous me permettez, un petit peu dans le contexte politique. Oui. Et justement, c'est un discours d'extrême droite, justement, qui façonne tout ça. On dirait qu'on était revenu 2 siècles en arrière, justement, on parlait de la race qu'on finalement on connaît, c'est la race humaine et la race animale.
C'est ça.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes? Parce qu'il y a des millions de personnes qui vivent, qui sont nés dans des pays européens et qu'ils sont pas considérés comme citoyens à part entière.
Alors, je vais vous répondre comme un historien pour répondre à des questions politiques sensibles, hein, parce qu'il faut avancer avec sa spécialité, parce que sinon, c'est pas intéressant. Voilà, l'historien, voilà, il travaille sur le passé, donc il commet pas d'anachronisme. Mais nous, à quoi ça sert l'histoire? L'histoire, on l'a fait quand on est historien, on écrit des livres, des articles, pas pour les gens qui sont morts, donc on écrit pour les gens qui vont nous lire aujourd'hui, donc qui sont en vie. Et ça, c'est important de le dire. On travaille sur le passé avec nos outils, mais pour penser aussi le présent. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est que c'est à la fois, comme vous le dites, c'est une histoire qui est pas très lointaine. On a l'impression qu'à un moment donné, on a tourné la page. Et le Portugal, son empire, c'était jusqu'en 1999. Vous voyez, on pensait encore de Minho à Macao. Donc, c'est pas une histoire qui date de siècles. Et c'est une histoire qui ne passe pas parce que on a décidé de tourner la page sans réfléchir aux conséquences. Vous voyez, sans réfléchir à comment réparer une histoire qui était une histoire violente et de domination où on a inscrit dans les mémoires, y compris dans les mémoires de nos parents qui ont fait les guerres coloniales, des représentations et des préjugés. Donc cette idée, vous voyez, que l'homme blanc est supérieur à l'homme noir, elle n'a pas été déconstruite. Donc il suffit, voilà, qu'on se retrouve dans des contextes de crise, un petit peu comme aujourd'hui, pour que cette histoire, qu'à un moment donné on avait un petit peu mis sous le tapis, elle revienne au devant. Pourquoi? Parce que on n'a pas réparé ce qu'a construit la colonisation. La colonisation, elle a construit quoi? Elle a construit des sous-citoyens, parce que comme vous le dites, voilà, les Portugais du Cap-Vert étaient censés être portugais, mais ils étaient des sous-citoyens. Ils n'avaient pas les mêmes droits, un peu, voilà, comme dans le cas de la colonisation de tous les pays européens. Donc, à la fois ils appartenaient à la nation, ils faisaient partie de provinces du Portugal, les provinces d'outre-mer, mais ils étaient sous-citoyens. Et donc cette histoire, de moment, voilà, on a décidé qu'on tournait la page, avec la fin des colonies, mais on n'a pas réparé ce qui est plusieurs siècles de préjudice, parce que après l'esclavage, il y a eu la colonisation, il y a eu le travail forcé, il y a eu l'engagisme, et ensuite il y a eu un rapport que le rapport au capitalisme, c'est toujours l'Occident qui a imposé le maintien de d'une partie de sa société dans des formes de dépendance économique. Donc on n'a pas réparé ce qu'on considère aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, comme un crime, puisque par exemple l'esclavage, il y a la loi Taubira dont on a fêté l'anniversaire, considère que la traite et l'esclavage est un crime. Vous voyez, c'est pas juste un fait historique comme les autres, c'est un crime contre l'humanité, et un crime contre l'humanité, il faut le réparer. Et le réparer, ça veut dire reconnaître les conséquences politiques, mais aussi les conséquences sur les mémoires, sur les traumatismes, parce que voilà, tous ces enfants qui ont été de personnes colonisées, ils transmettent, ils ont avec eux des traumatismes. Et donc, je trouve que le moment dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un moment à la fois compliqué, parce que à un moment donné, on a eu l'espoir, il y a quelques années, vous voyez, qu'on allait réparer avec des politiques qui étaient des politiques plutôt d'affirmation positive, vous voyez, pour réparer cette histoire coloniale. Et là, aujourd'hui, depuis quelques années, avec l'arrivée de l'extrême droite, on revient à une politique où on dit, on traite les gens d'être woke, c'est-à-dire qu'on ne veut pas revenir sur les crimes du passé. On part du principe que c'est le passé.
Alors, je rappelle, vous êtes historien, enseignant. Oui. Alors, question, on arrive pratiquement à la fin de l'interview, je m'excuse, Antonio Dalmeida Mendes, mais pour enseigner et parler, la question d'identité, c'est vrai que ce n'est pas évident ?
Non, ce n'est pas évident. Je le vois avec mes étudiants, vous voyez, quand on fait des cours sur cette histoire, ils nous disent, oui, mais on va encore revenir à l'histoire des Blancs qui ont réduit en esclavage des Africains. Donc c'est très compliqué à déconstruire, leur dire que l'histoire est complexe et qu'à un moment donné, on n'est pas responsable de ce qu'ont fait les gens du passé, nos ancêtres, mais en même temps, il faut montrer la complexité et de voir que cette histoire, c'est une histoire à échelle humaine, c'est-à-dire qu'il y a des humains partout et à un moment donné, il y a des imaginaires qui se sont mis en place pour justifier ce qui était injustifiable. Et donc moi, je dis toujours à mes étudiants, c'est-à-dire que le temps présent dans lequel on vit des choses qu'on n'aurait cru jamais pouvoir vivre quand on regarde la situation politique, et que dans un siècle, je ne sais pas comment les gens jugeront le monde dans lequel on vit, parce qu'avec les crimes, les atrocités, les guerres, la guerre est revenue en Europe, vous voyez, donc comment on jugera notre temps présent. Et nous, c'est pareil, c'est-à-dire les historiens, on est là pour juger de crimes du passé, mais en essayant de remettre ça dans des cadres, des complexes. Comment, à un moment donné, des individus, on peut penser de telle façon. Et l'historien, il est là pour dire, attention, l'histoire, elle se répète. Il faut faire attention parce qu'on est en train de passer à une autre phase. Et donc, il faut mettre des garde-fous. Et donc, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants.
C'est pas évident. Alors, je rappelle cette conférence Esclavage, un passé qui nous façonne encore. Bon, j'ai trouvé un sous-titre. Quel impact l'esclavage a-t-il encore aujourd'hui? Histoire, génétique et mémoire se rencontrent pour débattre. C'est important parce que ces conférences-là sont ouvertes à tout le monde. Il faut pas penser que ça va être abordé d'une façon tellement scientifique que le commun des mortels se sent perdu loin de là.
Maintenant, il y aura des questions avec le public, des quiz. Pareil, l'université, moi j'enseigne aussi à Paris, à l'HESS, c'est des lieux ouverts. Donc les gens ont ce sentiment que l'université, c'est un lieu fermé où on va discuter de choses très pointues. C'est un espace ouvert. Donc l'université publique, contrairement à d'autres institutions, vous voyez, qui étaient plus fermées, c'est un espace où n'importe qui peut venir. À n'importe quel âge de sa vie. Voilà, moi, j'ai des personnes qui reprennent des études à 30, 40, 45 ans. Donc c'est quelque chose qui est assez formidable de penser la complexité du monde.
Et c'est vrai que finalement, l'éducation, je parle de l'université en particulier, ça aide à former des citoyens.
Oui, ça aide à former des citoyens, ça aide à avoir des idées sur les idées. Alors, je ne sais pas si c'est trop compliqué ce que je dis là, mais avoir les idées sur les idées, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on arrive avec des idées toutes faites Et en arrivant dans l'université, moi je dis à mes étudiants, c'est vous qui allez produire des idées. Donc si et les idées, c'est y compris, on va avoir des gens qui vont produire des idées neuves. Donc on a une société qui forme un peu, voyez, les esprits avec l'intelligence artificielle. Et l'université, c'est l'un des seuls endroits aujourd'hui qui existe encore où vous arrivez comme vous êtes. Et donc là, on va réfléchir ensemble de façon très scientifique, hein, parce qu'on travaille sur de l'archive critique, pour produire une réflexion personnelle, rationnelle. Et donc ça, je trouve, voilà, c'est formidable pour des jeunes de dire qu'au bout d'un moment, c'est plus leurs parents qui pensent pour eux, c'est plus les politiques qui leur disent quoi faire, c'est plus la société, mais c'est eux qui, à un moment donné, vont se prendre en main et dire, voilà, moi, je pense comme ça.
Antonio d'Almeida Mendes, je vous remercie. Donc, rendez-vous demain à partir de 19h. À partir de 19h au musée de l'homme qui se trouve 17 place du Trocadéro. Parler de Chaillot. Merci bien. On a de quoi réfléchir. Et effectivement, quand les pays des dictatures commencent à s'attaquer à la culture, ça veut dire qu'on a eu raison de débattre tout ce qu'on vient de dire pendant pratiquement 20 minutes. Merci bien.
Merci. 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 À bientôt. Au revoir.
Entramos na reta final desta passagem de nível do domingo, dia 25, tendo em conta o resultado das eleições legislativas antecipadas que ocorreram no dia 18 de maio deste ano. Pois bem, está muito para refletir com o aumento dos votos a favor da extrema-direita racista e xenófoba. Ora, há que referir que os governos ou ditatoriais, eles não gostam da cultura, censura, censura por todo lado. E vamos começar por falar de um livro, Da Palavra em Punho, a Antologia Poética da Resistência, de Fernando de Pessoa, ao 25 de Abril. É um livro que já data de 2004, mas vale a pena refletir. Quem nos fala dele, pura e simplesmente, é quem? É Josefinha, a poeta, e isto a partir de uma frase: quando o homem estava em sangue, pois bem, a palavra estava em sangue.
Exatamente, é mostrar que como a palavra foi fundamental na resistência à ditadura. Aliás, eu acho que a palavra é fundamental à vida das pessoas até. Há uma frase lindíssima, um escritor espanhol, Jorge Semprún, que foi sobrevivente do campo de concentração de Buchenwald, na Alemanha nazi, e que dizia que às vezes, quando as pessoas estavam num estado extremo de fraqueza física, ele tem esta frase: uma palavra encostada a outra palavra pode manter um homem em vida. E, de facto, durante todo o período do fascismo, do Estado Novo, a palavra encostada a outra palavra foi um rio de resistência extraordinário, mesmo na boca de pessoas inesperadas.
Sim, com efeito, porque encontramos alguns nomes, por exemplo, Vitorino de Mésio, Tiago Vitorino de Mésio, por exemplo, a Antologia Poética da Resistência. Às vezes é difícil, precisamente, de compreender.
Claro. A intenção foi justamente perceber até que ponto é que o incómodo com o Estado Novo transpareceu na poesia de praticamente toda a gente. Aliás, há um caso curioso de um poema que depois de 25 de Abril se tornou numa espécie de hino de direita e que, antes de morrer o autor, fez questão de dizer que o título original do poema era 1968. Portanto, que o poema não era referente ao 25 de Abril, mas ao antes do 25 de Abril. E, portanto, aquilo que se tinha transformado num hino de direita era, de facto, um hino de esquerda.
Ora, José Fanha, teremos a ocasião, evidentemente, de vir com mais detalhes, porque, através deste livro, finalmente podemos fazer diversas emissões, não só musicais, mas também através da história portuguesa. Ora, há que referir, quando se fala, precisamente, de poesia da resistência, há diversas épocas. Não é por acaso também que José Fanha começa, precisamente, esta antologia com Jaime Cortesão e logo a seguir a Fernando Pessoa?
Sim, há várias épocas e há várias atitudes, não é? Eu parece-me que há uma fronteira muito importante, que é a fronteira da Segunda Guerra Mundial. Até à Segunda Guerra Mundial só houve um rio de vozes muito forte, que foi antissalazaristas, que foi o rio do neorrealismo. Depois da Segunda Guerra Mundial, a intelectualidade demarca-se claramente do Estado Novo. Há um divórcio completo. Digamos, até à exposição do mundo colonial português, ainda muitos intelectuais colaboravam com o regime. A partir partir do fim da Segunda Guerra, quando todos esperam que a democracia seja imposta pelos ingleses, pelos americanos, etc., e quando percebem que não vai ser imposta, há um divórcio completo. E aí há um alargamento das vozes que se opõem poeticamente ao regime. E aí temos várias gerações. Temos aquela geração dos anos 50, de Davi Manuel Ferreira, do Egito Gonçalves, vozes mais militantes, menos militantes. O Egito Gonçalves, por exemplo, que é um grande poeta de que se fala pouco e que é um belíssimo poeta e um homem de grande militância nos anos 50. O Davi Manuel Ferreira, que tem coisas maravilhosas. O Fado Peniche, que é uma coisa que curiosamente a Amália Rodrigues cantou e que era um poema contra ou sobre a prisão de Peniche. Depois há uma outra geração, a geração de 61, uma geração que procura uma outra modernidade da língua e que está menos preocupada com a utilização política direta da palavra, embora em alguns casos são obviamente pessoas com uma militância, mas separam a militância da literatura. E depois vem, digamos, a última geração antes do 25 de Abril, a que eu pertenço, eu, o Zé Jorge Letria, o Joaquim Pessoa, a Hélia Correia, e que aí nós somos uma geração que fez da poesia uma arma, claramente uma arma de luta, não é?
Com efeito, e não é por acaso, José Fanha, que é um grande destaque a dar a José Afonso, porque finalmente foi, bom, há o Adriano Correia de Oliveira, quer dizer, há nomes que não podemos esquecer, mas José Afonso foi um marco, acho eu.
É, mas e também, e as pessoas esquecem-se de uma coisa, remetem o José Afonso para o estatuto de cantor, mas o Zeca também foi um poeta. Foi um poeta de canções e foi um poeta independentemente das canções. E tem alguns poemas de enorme qualidade. Aliás, eu penso que se alguns intelectuais, alguns universitários não incluem a canção no campo da poesia, ou incluirão numa poesia popular ou coisa assim. E, no entanto, nós sabemos que há grandes poetas da canção. O Chico Buarque de Holanda devia ser incluído em todas as antologias da poesia em língua portuguesa, o Zeca Afonso também, porque a letra da canção pode ter o estatuto de grande poesia.
E a propósito dessa poesia, este é o nosso poema. Este é o poema do tédio e da apatia, este é o poema repetido dia a dia, já esquecido, este é o poema do som, da indiferença, do vazio, este é o poema sem dor, sem fome e sem frio.
Eu gosto muito de explicar aos jovens que ter 17 anos em 68, como era o meu caso, quando uma pessoa se apercebia do país em que estava a viver, por confronto com o que se passava no mundo lá fora o mundo mexia. Havia as lutas estudantis, o maio de 68, havia os hippies, havia o Make Love Not War, as protestos contra a guerra do Vietnã, etc, etc, etc. Havia uma explosão fantástica da música anglo-saxónica, com o Bob Dylan, com o Ron Baez, o Pete Seeger, etc. E aqui nós estávamos numa estufa calafetada, né? Já não sei quem dizia isso, quem usava estas pessoas. Portugal era muito triste, era muito chato, era muito fechado, era muito deprimente, era muito formal, era muito pequenino, era muito mesquinho. Isto independentemente de ser um país onde havia a repressão, a polícia política, etc. Mas no dia-a-dia é importante lembrar que era proibido dar um beijo na boca em público e que isso podia dar direito à prisão. Que muitas vezes o amor, o namorar, o pôr o braço por cima do ombro da namorada, o dar um beijo, era uma forma de resistência. O amor assumia-se muitas vezes como uma forma de resistência. Uma resistência sem palavras, mas que tinha imensas palavras por trás.
Com efeito. José Fanha, não é por acaso que este livro sai, bom, ao 35º aniversário do 25 de Abril, mas penso que a edição deste livro é mais do que um símbolo no momento atual em Portugal, onde se fala de uma tentativa de branqueamento ou de revisitar um pouco a história, branquear o fascismo, branquear o salazarismo.
Não, eu acho que esta atitude completamente inaceitável de que o Salazar tinha umas coisas boas, mas também tinha umas coisas más, mas também tinha umas coisas boas. Agora até querem fazer dele um sedutor, um homem que obviamente, historicamente, era um homem muito contido nas suas manifestações de afeto. Agora querem fazer dele um sedutor, enfim, quer dizer, é são tentativas completamente ridículas e tontas, não é? E sabemos como ele foi um homem profundamente retrógrado. Houve um momento em que, talvez nos anos 30, em que ele se rodeou de algumas figuras que lhe deram algum brilho, nomeadamente o ministro da Propaganda, o António Ferro, e o engenheiro Eduardo Pacheco nas obras públicas, e que lhe deram algum tom de modernidade que não era o seu de todo. Era um provinciano, era um bote de elástico, era um homem profundamente conservador, profundamente autoritário e cinzento. Agora virem contar que o senhor é isto aqui de acordo, francamente até faz os rumores de levantarem-se na
cola. Mas
é uma altura em que é importante falar que as pessoas eram torturadas, é importante falar do que era a mediocridade deste país e de como este país se atrasou em relação à modernidade, em relação à Europa, durante os 48 anos da ditadura salazarista. Nos anos 60 havia 40% analfabetos em Portugal. Esta foi a grande obra civilizadora dessa grande figura, entre aspas, não é? 40% analfabetos. Como é que é possível dizer que este homem foi isto, aquilo e aquilo outro, quando nos anos 50 era obrigatório ter a terceira classe, era a única coisa que era obrigatória em termos de ensino? E um homem que desconfiava do saber, que desconfiava do pensamento, que desconfiava da arte, que desconfiava daquilo que há de melhor na humanidade.
Palavra em punho, antologia poética da resistência de Fernando Pessoa ao 25 de Abril, a organização apresentação José Fanha e a editora a Campo das Letras. José Fanha, até breve então.
Muito obrigado, meu caro amigo, um grande abraço e olha, viva ao 25 de Abril, caramba.
E viva ao 25 de Abril.
Um grande abraço, muito obrigado.
A entrevista já data mais de 20 anos, há muitas coisas que continuam atuais, pelo menos é isso que as pessoas que querem, que se volte para trás. Mas enfim, a censura a nível da literatura, mas não só, o cinema aí, é isso agora que vamos ver, a propósito de um livro, Cinema e Dissidence, Les Ciné-Clubs Portugais, pendant la dictature de Salazar, que foi publicado pela Presse Universitaire de Paris, não. Quem fez isto foi uma argumentista e não só, professora na Universidade de Sorbonne Nouvelle. Ora, à partida, precisamente, a investigação que ela quer fazer não era sobre este tema, mas ela explica-nos isso precisamente, eu disse a Silva.
C'est vrai que ça a été vraiment une découverte pour moi de trouver ces documents sur les ciné-clubs. Et en fait, au départ, je ne cherchais pas du tout ça. C'est ce qui arrive souvent. Quand on fait de la recherche et qu'on parle pour chercher quelque chose et puis on trouve quelque chose d'autre. Et donc j'étais en doctorat de cinéma au département de portugais de l'université de Paris-Nanterre et je travaillais sur le cinéma portugais et la censure au cinéma pendant l'État nouveau. Et donc pour faire ce travail de recherche, je suis allée aux archives nationales de la Tour du Tombe à Lisbonne, au secrétariat national de la propagande ou de l'information, pour trouver des scénarios censurés, pour trouver des traces de censure au cinéma. Et dans ces documents-là, j'ai trouvé en fait plusieurs boîtes conservées par l'État. Et c'était des boîtes sur tous les ciné-clubs portugais, donc des années 40 jusqu'aux années 68. Et donc c'est là que j'ai vu qu'ils avaient gardé des archives sur tous les ciné-clubs pour toutes les années. Donc ça, c'était vraiment, et je me suis dit, bon, ben voilà, ça, c'est quelque chose d'intéressant et je peux pas le développer tout de suite, donc je le garde pour plus tard, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée parce que j'ai vu tout de suite, en fait, qu'ils avaient gardé, en fait, il y avait des informations de la PIDE, beaucoup de choses sur les membres des ciné-clubs. Et ça, c'était tout à fait une découverte inattendue pour moi.
Vous écrivez, bon, dans l'introduction, il s'agit d'une première esquisse d'une histoire des ciné-clubs portugais encore jamais réalisée à ce jour. Mais ça n'empêche que vous avez déterré, je passe l'expression, un certain nombre de documents, et pas seulement, parce que le début, sauf erreur de ma part, de la naissance ou de la création des ciné-clubs au Portugal, ça date des années 40. Mais il va falloir attendre, disons, je ne sais pas, les années 50, pour que le gouvernement de Salazar se rendre compte que finalement les ciné-clubs c'était un espace de liberté et de résistance. Donc quand on ne peut pas les tuer, bon, on les récupère. C'est ça qu'a essayé de faire le régime fasciste, de récupérer ces ciné-clubs ou pas?
Oui, c'est ça. C'est en fait dans les années 40, il y a eu l'émergence de plusieurs clubs de cinéma inspirés par le modèle français. C'est inspiré de ce qui se passait en France, la création des ciné-clubs en France. Et très vite, ils se sont multipliés sur tout le territoire portugais. C'était des rassemblements qui n'étaient pas du tout régularisés et qui n'étaient pas supervisés. Et puis, comme vous le savez, à l'époque, voilà, les rassemblements sans autorisation n'étaient pas
autorisés.
Donc, assez rapidement, en fait, bon, ça a mis quand même 10 ans pour que l'État s'intéresse, ils reconnaissent un danger potentiel d'insurrection politique. Mais c'est ce qui a fini par se passer. Donc ensuite, ils ont implémenté une législation qui a fait que les ciné-clubs devaient rendre des comptes et devaient être sous la coupe d'un organisme d'État, qui était finalement aussi, ça avait des avantages pour eux, parce que du coup, l'État leur a prêté aussi des films de la cinémathèque portugaise.
Et de l'argent aussi, ils ont financé en partie.
Ils ont financé, bien sûr, oui, donc un soutien financier important. Et qui était en fait essentiel pour la survie des ciné-clubs. Mais parallèlement, ça voulait dire aussi qu'il y avait un contrôle plus accru à la fois de la programmation, des textes qui étaient lus pendant la présentation des films. Donc voilà, il y avait ces deux tranchants-là.
Alors, Rodis de Silva, vous donnez un certain nombre d'exemples. Bon, on va partir sur un concrètement, c'est le néoréalisme, surtout des films italiens. Alors, finalement, parce que c'était très important, parce que les ciné-clubs, justement, ils avaient une modernité qui mettait en question ce qu'on appelle l'imaginaire national fasciste, n'est-ce pas? Donc, ça pourrait mettre, bon, peut-être en danger le régime, et le régime considérait que ce cinéma-là, c'est le néoréalisme, était subversif.
Oui, tout à fait, ouais. En fait, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que ce réseau-là se développe en parallèle du cinéma national et du réseau commercial de distribution, où en fait la censure intervenait à toutes les étapes à la fois de production des films, sur les scénarios, sur les films une fois montés, mais aussi sur les films qui étaient importés de l'étranger, et essentiellement les films italiens avec un réalisme social marqué, les films russes étaient interdits, donc il y avait toute une série de types de cinéma et de thématiques qui étaient soit interdites, soit extrêmement contrôlées, et le néo-réalisme italien en faisait partie. Donc très rapidement aussi dans les ciné-clubs, ça c'était des films qui étaient limités, de leur importation était limitée ou interdite.
Chose étonnante, bon, on ne s'étonne pas de la façon comment agissait Lapide, parce qu'il y avait des gens, bon, bientôt des informeurs de Lapide, qui assistaient aux projections. Parce que souvent, les projections étaient suivies par des débats, etc., etc. Donc, c'est incroyable, parce que vous avez trouvé des rapports sur cette question-là, je crois.
Alors, moi, ce que j'ai trouvé, d'ailleurs, ça m'intéresse, votre expérience, puisque vous avez fait partie d'un ciné-club. Est-ce que vous avez souvenir de ça?
Oui, tout à fait. Bon, c'était à Lisbonne. Bon, il faut dire que c'était des gens de gauche, hein. Et oui. Bien entendu qu'on était surveillés, plus que surveillés.
Donc, il y avait la pile à vos projections.
Oui et non, bon, on se méfiait toujours des gens, vous savez, parce qu'on savait, ouais. On savait pas trop, parce que bon, il y avait des gens qui s'infiltraient, qui disaient qu'ils étaient avec nous, bon, ils étaient des traîtres, non. Mais bien entendu, bon, comme une autre chose, un concert de musique, mais c'était pareil, hein. Par exemple, quand on organisait, bon, des projections, certaines projections, il y avait toujours quelqu'un sur le balcon pour voir qui c'est qui passait devant la porte, quelqu'un qui essayait de rentrer. Et à ce moment-là, il fallait changer complètement, vous voyez. C'est des choses comme ça, c'est qu'effectivement, on avait toujours la peur au ventre.
Oui, alors dans les archives, moi, j'ai pas trouvé de traces de présence, en fait, d'agents de Lapide dans les projections. Par contre, ils sont intervenus à d'autres moments, et ça, on retrouve les traces dans les archives. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une élection de nouveaux membres, tous les ans, l'association, il y avait une élection de nouveaux membres, et le SNI, donc le Secrétariat National de l'Information, demandait localement, en fait, dans toutes les régions, si les personnes élues avaient un casier judiciaire, avaient été interpellées par Lapide, s'ils avaient signé la liste du Parti démocratique, enfin, ils étaient vraiment contrôlés. Et donc, s'ils faisaient partie, voilà, s'ils étaient considérés comme politiquement subversifs, alors ils pouvaient être bénis de leur fonction de la direction des ciné-clubs. et sans raison particulière. C'est-à-dire que les personnes du Ciné-Club ne savaient pas forcément pourquoi ils avaient été démis de leur fonction, mais dans les archives, on retrouve que, en effet, ils étaient considérés comme, comme suspects, comme communistes, voilà, comme ayant une vie irrégulière, enfin, tout, toute une série de critères qu'ils avaient. Donc là, on a la trace de, en effet, d'un contrôle policier qui était effectué par l'État, et il y avait également des contrôles de la PID, comment dire, dans les quartiers généraux des ciné-clubs, où il y avait des bibliothèques avec certains livres, donc pour vérifier à la fois la correspondance que les ciné-clubs échangeaient entre eux, pour voir s'ils communiquaient entre eux, qu'est-ce qui était dit, s'ils critiquaient l'État, ou encore pour contrôler tout simplement les livres qu'ils lisaient.
Vous avez parlé de contrôle de l'État, qu'est-ce que c'est très important, au moment donné, surtout c'est un monsieur qui s'appelle Jodis de Coste, parce que c'était lui qui dirigeait la troisième répartition SNI, Service National d'Information, justement c'était autour des statuts, parce qu'ils ont essayé d'imposer un genre de statut type pour tout le monde, et là il y a eu une révolte énorme, et ça du nord au sud du Portugal.
Oui, c'est ça, en fait, c'était une manière de réglementer le fonctionnement des ciné-clubs, mais c'était surtout une manière de placer cet organisme d'État au centre de tout un dispositif. Donc, en fait, les ciné-clubs ne pouvaient pas agir sans l'accord de l'organisme d'État. Ils devaient toujours passer par le contrôle de l'État, en fait, par cet organisme-là, pour communiquer, pour élire des membres, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas aller à l'encontre de ça. Et s'ils agissaient en dehors de ce contrôle-là, alors ils étaient de toute façon considérés comme illégaux et pouvaient être dissous. Donc c'était une sorte de contrôle par l'inclusion. C'est comme ça que l'État a fait pour contrôler ce mouvement sur lequel au départ il n'avait pas la main mise. C'est vraiment un contrôle par l'inclusion. Et ça, c'est quelque chose que l'État faisait également dans d'autres domaines.
Oui, la chanson, la littérature, etc., etc., quoi.
Voilà, et puis, oui, et puis au cinéma, même au cinéma, le cinéma portugais était produit de la même manière, en fait. Pour pouvoir produire un film, il fallait candidater à un organisme de l'État, et donc c'était le même type de contrôle qui a été fait à partir des années 50.
Eurydice de Silva, je vous remercie. Donc, je rappelle, Cinéma et Dissidence, les ciné-clubs portugais pendant la dictature de Salazar, a été publié par les presses universitaires de Paris-Nanterre. Merci et à très bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. E, aliás, depois disso, essa entrevista data de 2003, quando foi publicado o livro. Depois, no ano seguinte, ela publicou Filmé sous la contrainte, le cinéma portugais pendant l'État nouveau de Salazar, 1933-1974, publicados pela Pitt Lang. E estamos a terminar esta missão. Obrigado ao Manuel Alexandre, e nada melhor do que dar a palavra, ou mais concretamente a voz, José Mário Branco, aquele que está vivo, nunca diga. Não diga nunca, nunca.
Por entrar
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Artur Silva.